Je sais qu'on a déjà on se souhaitait déjà une bonne heureuse année, mais comme il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées depuis vraiment le début, donc je vous souhaite de nouveau bonne heureuse année. Puis on sait que une des choses qu'on souhaite lorsqu'on souhaite ça, c'est qu'on vive en paix. Peut-être que ce n'est pas en arrière dans vos pensées chaque fois que vous saluez quelqu'un, vous dites ça surtout à la fin de l'année passée, au début de cette année. Mais c'est une des choses qu'on se souhaite, n'est-ce pas? De vivre en paix. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe dans notre monde, souvent on voit que la paix est vraiment bouleversée ou ça n'existe pas. Laisse-moi juste... Un de ces jours, je vais acheter une tablette. Utiliser l'ordinateur sur ça, ce n'est pas toujours si facile. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie, donc depuis 6 ans, ils sont en guerre, guerre civile. Il y a plus que 300 000 morts et plus que 11 millions qui sont réfugiés maintenant. Parfois à l'interne, mais un grand nombre sont à l'externe. Et on voit qu'il y a d'autres places dans notre monde où il y a des difficultés. Puis on peut regarder ce qui se passe aussi lorsque les terroristes décident d'attaquer. Ce qui s'est passé au début de l'année, je crois que c'était soit janvier ou février, je ne m'en souviens plus exactement la date, mais à Nice, il y avait 86 morts par quelqu'un qui a utilisé un camion pour tuer les gens. Et la même chose s'est arrivée juste dernièrement en Allemagne, lorsque quelqu'un a décidé d'utiliser un camion pour tuer les gens. Donc, lorsqu'ils décident d'attaquer, souvent notre paix, ce qu'on tente à vivre, est bouleversée et troublée. Ou lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsque, par exemple, Poutine a décidé d'annoncer au monde qu'ils vont augmenter leur arsenal nucléaire, et Trump a dit la même chose quelques jours plus tard, est-ce qu'on peut vraiment vivre en paix dans ce monde troublé et bouleversé? Mais on n'a pas besoin nécessairement juste de regarder le monde. On peut regarder notre propre vie. Lorsque nous devenons anxieux, lorsque quelque chose arrive dans notre vie, une épreuve, comme on a chanté tout à l'heure, mais ce n'est pas comme on a chanté, comme Alex a parlé tout à l'heure, dans les épreuves. Lorsqu'on vit des épreuves, des difficultés, souvent notre paix est bouleversée. Ou peut-être lorsqu'on est dans un problème dans une relation interpersonnelle. Nous ne vivons pas la paix lorsqu'il y a des problèmes dans la famille ou avec un collègue du travail ou avec quelqu'un d'autre. Nous ne vivons pas la paix dans ces circonstances. Ou lorsque nous devenons peut-être un peu jaloux des autres. On regarde ce que les autres ont ou ce que les autres font et parfois on est jaloux parce qu'on veut faire, on souhaite que on peut faire ça ou on peut être comme ça. Et lorsque ça nous arrive de se comparer l'un avec l'autre, souvent nous ne vivons pas en paix non plus. Ou même dans notre propre relation avec Dieu. Parfois, nous ne sommes pas même en paix avec Dieu. Cependant, Jésus a affirmé avec ses plus proches la soirée juste avant sa mort, lorsqu'ils étaient avec ses proches, il a dit ceci. Ah, j'avais oublié je suis content que quelqu'un ait décidé d'avancer les choses. Ah. Donc, j'ai mal ajusté. Je ne sais pas s'il y a une façon d'ajuster la forme de l'écran. Mais je vous laisse la paix. Ah, mais ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. C'est correct. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et se ne laisse pas effrayer. Jésus savait qu'il était pour mourir 24 heures plus tard, ou peut-être même 20 heures plus tard. Il avait dit à ses disciples qu'il était pour partir. Et ses disciples étaient tristes d'entendre cette nouvelle. Les autres, lorsqu'il a parlé de ça, évidemment, leur cœur était troublé, ils étaient tristes, ils ne vivaient pas nécessairement en paix. Mais Jésus, quand même, a parlé de la paix dans cette circonstance, en sachant qu'il était pour mourir quelques heures plus tard, il a parlé de la paix. Comment ça se fait qu'il a pu parler de ça? Donc, ce matin, je voudrais parler de comment Dieu amène la paix dans quatre domaines de nos vies. Quatre domaines. Je dois vous avertir que ce ne sera pas une prêche où on va regarder un seul passage biblique. On va faire un survol ce matin de la paix et comment nous vivons dans quatre domaines de notre vie. Donc, ce ne sera pas nécessairement si facile de se rappeler de ce que je vais dire, mais au moins, vous allez vous souvenir de le concept de vivre en paix. Et dans ces quatre domaines, chacun mérite une prêche toute seule. Donc, au fond, on va passer vite. On va pas examiner ça en profondeur. Mais les quatre domaines qu'on va discuter, on doit vivre la paix avec Dieu, on peut vivre en paix avec soi-même, on peut vivre en paix avec les autres, et on peut vivre en paix dans les épreuves. Et ce matin, vous devez examiner votre propre situation, parce que ça se peut que si vous ne vivez pas en paix à ce moment-là, ce n'est pas tous les quatre domaines que vous voyez sur l'écran maintenant qui vous troublent. Peut-être qu'il y a un seul domaine ou deux dans votre propre vie. Donc, c'est à vous de faire votre propre diagnostic. Vous devez être les médecins pour bien diagnostiquer votre propre situation dans votre propre vie pour savoir quel remède à utiliser dans votre vie personnelle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prier. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous offres la paix. Au fond, c'est même un des éléments de le fruit de l'Esprit que tu permets de nous donner, de cultiver en nous par ton Esprit. Donc Seigneur, on prie que ce matin, si mes frères et sœurs sont troublés par quoi que ce soit dans leur vie, que tu peux verser dans leur cœur ta paix. La paix que ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est toi qui nous donnes. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. La paix avec Dieu. Dieu a écrit dans nos cœurs ses lois. Et c'est en évidence par notre propre conscience. En Romains 12, en Romains 2, versets 13 et 15, ça se dit, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accuse ou se défendant tour à tour. Mais par notre indifférence et notre rébellion contre ce que nous savons, c'est que c'est la bonne chose à faire dans notre propre tête, on n'a pas même besoin de la loi de Dieu, la Bible, pour nous dire ce qui est bon et ce qui est mal. Au fond, Dieu l'a écrit dans nos consciences. Et nous n'agissons pas toujours selon notre propre conscience. Assez souvent, nous faisons le mal, et nous le savons. Donc, par nos propres actions et nos propres pensées, nous nous sommes détournés de cette loi que Dieu a écrite dans nos cœurs. Et si 6000 ans de civilisation humaine nous démontrent une chose, ça nous démontre que nous sommes incapables d'enlever le mal nous-mêmes, soit de notre propre vie, soit de la société. La guerre existe depuis le commencement, les meurtres existent depuis le commencement, mais le commencement de la civilisation humaine. Puis, on a tous les mêmes problèmes aujourd'hui qu'il y avait 100 ans, 1000 ans, 6000 ans. Et c'est le même pour nous, dans nos propres vies. Souvent, on décide de faire le mal l'un à l'autre, même sans le vouloir. Mais regardons bien ce que Dieu dit, ce que Dieu nous offre en Christ. Parfois, ça ne s'avance pas. Oups! OK. Romains 5, 8 à 10. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Par nos péchés, nous commençons comme ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu. Et c'était la réalisation de ce fait que le Seigneur a utilisé dans ma propre vie pour m'amener à me tourner vers Jésus-Christ. Parce que quelqu'un a cité un verset de Jésus lorsque j'avais 18 ans, ma première année à l'université, là où Jésus dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne ramasse pas avec moi disperse. » J'ai partagé mon témoignage dernièrement avec les hommes pendant le petit déjeuner des hommes, puis j'ai partagé cette partie de mon histoire. Mais le moment que j'avais entendu cette citation de Jésus, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me qualifier par l'expression « avec Jésus ». Et c'était même pire ramasser avec lui. Donc, le moment même que j'ai entendu ça, j'ai réalisé « moi, je suis contre Jésus ». Et l'idée d'être ennemi de Jésus ne me plaisait pas. J'ai été élevé dans une église, mais je me suis détourné des enseignements et de l'église lorsque j'étais ado. Mais donc, j'avais un respect pour Jésus. Je n'avais pas la foi en lui, mais j'avais un respect. Et l'idée d'être contre lui, ça ne me faisait pas. D'être ennemi de Jésus, ennemi de Dieu, ça ne me plaisait pas. Et le moment même que j'ai réalisé ça, j'ai dit, « Seigneur Jésus, je ne veux pas être comme ça. J'ouvre mon cœur à toi. Pardonne mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. » Puis, quelques jours plus tard, quelqu'un est venu dans la chambre que j'avais dans le dortoir pour me commencer de parler de le commencement de cette relation avec Dieu. Et une des choses qu'il m'a partagées, c'est que je suis devenu enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça parlait de, lorsque ça dit « elle », c'est la parole qui est identifiée un petit peu plus loin dans le même passage comme Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous a rendu l'enfant de Dieu. De l'ennemi à l'enfant. Quelle joie! Ça, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, si vous avez ouvert votre cœur à Jésus, vous êtes en paix avec Dieu. Vous avez une relation comme enfant avec Dieu. C'est vrai que cette relation peut être perturbée encore par les péchés dans notre vie, mais nous restons quand même son enfant et rien ne peut nous séparer de son amour. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Quelle promesse! Il n'y a rien, aucune personne, aucun événement qui arrive dans votre vie, quoi que ce soit, quelle circonstance, peu importe la circonstance qui arrive dans votre vie, ce n'est pas un indice que Dieu ne vous aime plus. Du tout. Non, Dieu vous aime, peu importe ce qui arrive dans votre vie, peu importe ce que vous faites, il vous aime. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Donc, si on veut vivre profondément en paix avec Dieu, il faut d'abord ouvrir notre cœur à Jésus. Et je crois que la plupart de vous avez déjà fait ceci. Mais s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais ouvert son cœur au Seigneur, pour vivre la paix que Dieu promet, il faut d'abord ouvrir votre cœur à lui. Sinon, ce serait impossible de vivre la paix dont Jésus parle et dont je vais continuer de parler dans les trois autres domaines de votre vie. Parce que ça se base toujours sur cette relation intime avec Dieu. Mais en vous confiant en Jésus, vous allez vivre cette paix dans votre relation avec Dieu, parce qu'il n'y a plus de condamnation, plus de punition. Mais un deuxième domaine pour vivre en paix, il faut vivre en paix aussi avec soi, avec soi-même. David, qui était le deuxième roi de l'ancien Israël, ça fait environ maintenant 3000 ans, depuis le temps qu'il a vécu, il a écrit ceci, que vous êtes une création extraordinaire. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je ne sais pas combien vous réalisez ce matin que vous êtes, selon la parole de Dieu, vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes le récepteur des gènes de vos parents, mais c'est néanmoins Dieu qui vous a choisi d'être né à ses parents. C'est lui qui a choisi vos parents. Au fond, c'est lui qui a aussi choisi les gènes qui viennent des deux. C'est lui qui a choisi votre personnalité, qui vous a tissé dans le sein de votre mère, qui a formé même tes forces, tes capacités, même tes faiblesses. C'est Dieu qui a formé tout cela. Ce n'est pas juste génétique en tant que tel. C'est Dieu qui vous a formé tel que vous êtes. Et vous êtes, selon lui, une créature merveilleuse. Et ainsi, vous avez la valeur à ses yeux. Vous êtes un de ses chefs-d'œuvre. Chacun de vous. Personne ici n'est pas un chef-d'œuvre de Dieu. Chacun de vous est un chef-d'œuvre. Considère aussi ce que Jésus dit. Que vous êtes plus valable que toute la terre. Jésus dit ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il fait une comparaison entre le monde et votre âme. Et lequel pèse plus? Le monde ou votre âme? C'est votre âme. Parce que votre âme, selon Jésus, vaut plus que tout l'or, tout l'argent, tout le pétrole, tout l'uranium, tous les bâtiments partout sur toute la terre, toutes les possessions de tout le monde sur toute la terre. Une seule personne, chacun de vous, une seule personne vaut plus que tout cela, selon Jésus. Parce que pour gagner tout cela et perdre son âme, ça n'a pas de valeur. Donc, vous êtes non seulement une créature si merveilleuse, mais vous valez, pour Dieu, aux yeux de Dieu, vous valez beaucoup plus que toute la terre, chacun de vous. Et troisièmement, aux yeux de Dieu, vous valez la mort de Christ. J'ai déjà cité Romains 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous valez beaucoup aux yeux de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de nous sauver? Mais c'est par son amour. Il n'était pas forcé, il n'avait pas besoin. Au fond, il n'a pas besoin de nous. Dieu existait avant la création. Il n'a pas besoin de la création. De tout l'univers, il n'en a pas besoin. Et de chacun de nous, au fond, il n'a pas besoin. Mais il nous veut. Il veut chacun de nous dans sa présence pour l'éternité. Et pour ça, chacun de nous, vous valez la mort de Christ, de son propre Fils, pour vous racheter, pour que vous, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que vous puissiez vivre en paix. Comme jeune homme, je luttais souvent avec certaines l'idée d'être... je pensais que j'étais inférieur aux autres. Je voyais parfois les personnes qui avaient certaines capacités ou certains dons. Je me comparais avec eux autres et j'étais envieux, jaloux de leurs capacités. Ce n'était pas nécessairement la possession auxquelles je me suis envieux, mais parfois, oui, ça aussi. Mais assez souvent, en regardant l'autre personne, oui, j'aurais être un peu plus comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé, après avoir appris les choses que je vous ai partagées déjà ce matin, il y a même beaucoup plus que ça, qui part de notre valeur aux yeux de Dieu, j'ai constaté qu'au fond, de me comparer à une autre personne et de ne pas accepter tel que je suis, je faisais contraire à ce que Dieu faisait. Il m'acceptait tel que je suis, il m'a créé ma personnalité avec mes forces, mes faiblesses. Donc, c'était un péché d'avoir une mauvaise image de soi, de me comparer aux autres et de vouloir être comme quelqu'un d'autre. C'est un péché, au fond. Et lorsque j'ai constaté ça, je devais le confesser. Au début, je ne voulais pas, j'ai refusé de croire qu'avoir une mauvaise image de soi, c'est un péché. Mais au moment donné, j'ai réalisé que c'est la vérité. Quelqu'un a dit, « Ne tente pas d'être quelqu'un d'autre. » Cette position est déjà prise. Jean-Baptiste a dit, « Un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. » Il parlait de Jésus à ce moment-là, mais les disciples de Jean-Baptiste étaient jaloux du fait que le ministère de Jésus augmentait et le ministère de leur vedette, Jean-Baptiste, était en train de diminuer. Donc, ses disciples étaient jaloux. Puis il dit, « Un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. » Pensez-vous que Dieu a fait une erreur lorsqu'il vous a créé? Non. Il vous a fait exactement comme il voulait, sans le péché, évidemment. Le péché, ça vient de nous, pas de Dieu. Donc, si nous voulons vivre en paix avec soi-même, il faut tout simplement accepter ce que Dieu dit à notre égard, ce qu'il dit de nous. Ce qu'il dit de vous. Acceptez ce qu'il dit. Il y a encore beaucoup plus. Je peux vous en parler après si vous voulez. Il y a beaucoup de passages qui parlent de notre valeur aux yeux de Dieu. Mais si je veux vivre en paix avec Dieu et avec moi-même, ça ne veut pas dire que je vais toujours vivre la paix. Il y a deux choses dans ma vie, et je suis certain dans votre vie, vous pouvez être en paix avec Dieu et même en paix avec vous-même. Mais il y a deux choses, deux domaines de notre vie où souvent notre paix peut être perturbée. Et c'est notre relation l'une avec l'autre et les épreuves. Lorsqu'il y a des problèmes dans ces deux domaines-là, assez souvent, la paix s'évanouit. Donc, il faut vivre en paix aussi avec les autres et aussi dans les épreuves. Vivre en paix avec les autres. D'où viennent les luttes dans nos vies? Qu'est-ce qui trouble notre relation avec autrui, avec notre époux ou épouse, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos voisins, avec nos frères et sœurs, avec nos collègues du travail? On a beaucoup de relations et c'est facile que quelque chose rentre dans ces relations qui perturbe notre paix. Et on va regarder ce qu'un ancien sage a dit. C'était Jacques. Un des disciples de Jésus, probablement pas le disciple, c'est probablement son frère qui a écrit ceci, le livre de Jacques. Nous ne sommes pas exactement certains, mais ce qu'il dit dans le chapitre 4, d'où viennent les luttes? Il propose la même question. Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, en parlant de demander, il parle de demander à Dieu dans la prière. Vous le demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et vous pouvez me dire, mais moi, je ne suis pas un meurtrier. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit par rapport à être coupable de meurtre. Lorsqu'il parlait dans le sermon sur la montagne, il a dit que si on dit raca, stupide, ou quelque chose de mauvais à quelqu'un, on est coupable de ce commandement de tuer quelqu'un. Donc, lorsqu'on dit des choses mal de l'un et l'autre, ou face à face, lorsqu'on dit quelqu'un stupide ou quelque chose pareil, on est capable du meurtre, coupable. Donc, dans un monde déchu, ce sont nos propres passions, nos propres péchés qui nous amènent souvent dans les problèmes interpersonnels. Je me souviens d'un argument que j'ai eu avec un de mes collègues de travail par rapport à notre nouvelle base de données. Juste cette année. Mais au fond, non, l'année passée. Parce que maintenant, on est en 2017. Donc, 2016. Puis, on a discuté de la structure, puis on avait un argument. Moi, j'avais une idée, lui, il avait une autre idée. Puis, si c'était tout simplement juste une question de la structure de cette base de données, on aurait tout simplement discuté de la bonne qualité de chaque structure et avoir pris une décision. Mais mon ego et l'ego de mon collègue du travail s'infiltraient aussi dans cet argument et on s'obstinait sur notre propre idée. Je ne m'obstinais pas sur son idée, je m'obstinais sur mon idée. Et donc, on a eu un argument. On a eu une dispute. Au fur et à mesure, on a réglé le problème. Mais le problème, c'est que ce qui nous a amené à avoir cette dispute, c'est notre propre orgueil. C'était une passion de nos propres cœurs. Mais de savoir ce qui cause nos luttes, de savoir que ça vient juste de l'intérieur de nos propres passions ne résout pas le problème. J'aurais pu me constater que oui, mon orgueil qui rentrait en vigueur, mais ça ne réglait pas le problème, juste de savoir ça. Plus loin, dans la même lettre, Jacques continue et il parle de l'importance de demander pardon de Dieu, de s'humilier devant Dieu, de demander pardon de Dieu, et au fond même, de demander pardon l'un et l'autre. Si vous voulez vivre en paix avec quelqu'un, il y aura des problèmes de temps à l'autre, mais il faut pardonner et demander pardon dans vos relations. Ma tendance, lorsque j'ai une bagarre avec ma femme, est de me retirer et d'aller un peu bouder dans mon coin. Et parfois, c'est bon d'aller dans notre propre coin. Bouder, je ne sais pas, mais aller dans notre propre coin, c'est bon parce qu'au moins, il n'y aura pas les émotions qui rentrent en force lorsqu'on est séparé l'un de l'autre. Mais si on reste dans nos coins trop longtemps, et ça, c'est pas bon non plus, là. Et tôt dans notre relation, dans ma relation avec ma femme, j'ai appris que c'est important de tenter de régler ces conflits aussitôt que possible. C'est pas toujours pratique de les régler tout de suite. Il faut avoir un temps de recul, un temps de penser pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à cette circonstance-là. Mais c'est pas bon non plus d'attendre trop longtemps. Trop de journées ou trop de semaines, trop de mois, ou même il y a des personnes qui attendent des années pour résoudre un problème interpersonnel qui rentre dans leur vie. Donc, pour résoudre ce problème, je dois me constater, moi, j'avais tort dans l'argument, ma femme probablement aussi, mais d'abord, je dois avouer mon propre tort, demander pardon de Dieu et de l'autre. Et je dois aussi demander la force de Dieu de pardonner à l'autre. Et ça, on a le bon exemple de Dieu lui-même. Combien de péchés est-ce qu'il nous a pardonnés? On peut pas vraiment les énumérer. D'abord, on sait qu'il pardonne tout. Je ne sais pas combien de péchés vous commettez par jour, par mois, par année. Mais ça peut être des millions. Combien de fois est-ce que quelqu'un a péché contre toi? Est-ce que c'est un million de fois? Peut-être parfois dans vos relations, peut-être il vous semble que la personne a péché autant que... Mais non, la réalité, c'est que nous péchons beaucoup plus à Dieu que l'un et l'autre. Donc, on a beaucoup moins à pardonner à l'autrui que Dieu pardonne à nous. Et il nous donne aussi le meilleur exemple parce qu'il nous donne gratuitement par sa grâce en Jésus-Christ. Il nous pardonne pour tout. En 2001, deux jeunes hommes ont été trouvés coupables de l'homicide involontaire de mon beau-frère. Pour 6 mois après sa mort, ma femme luttait et j'ai demandé permission de ma femme de vous partager cette histoire. Ma femme luttait contre la haine dans son cœur, ou plutôt la colère dans son cœur envers ces deux jeunes hommes. Jusqu'à ce qu'elle lisait la prière que Jésus nous a enseignée. C'était juste avant la Pâque, en 2001, ou 2002 au fond, parce que c'était après la mort. Puis elle lisait ça. « Tu ne pardonnes pas, excuse. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Puis le Saint-Esprit parlait à son cœur et dit « Anne-Marie, tu n'es pas en train de pardonner. » Et elle réalisait que c'était vrai. Elle ne pardonnait pas. Et elle dit, « Seigneur, je ne suis pas capable, mais moi, je vous donne la force. » Et le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur, « Commencez à prier pour eux. » Donc, c'est ça qu'elle a fait, qu'elle a commencé à prier pour ces deux jeunes hommes. Et le Seigneur a mis dans son cœur non seulement le pardon, la capacité de pardonner à ces deux jeunes, mais même aussi de commencer à vouloir le parler de Jésus lui-même. Et lors du processus légal, elle a eu l'occasion de rencontrer une des tantes d'un de ces deux jeunes. Et la tante a exprimé leur regret face à ce que leurs parents ont fait. Puis Anne-Marie leur a parlé, lui a parlé de justement, elle a pardonné ces deux jeunes. Elle offre 2 copies du film Jésus comme un petit cadeau pour chacun d'eux. Et elle voulait, elle n'avait pas vraiment, la situation ne se présentait pas pour qu'elle puisse vraiment leur parler directement face à face. Mais dans son cœur, elle expérimentait la paix parce qu'il n'y avait plus de colère. Plus de haine envers ces deux jeunes-là. Elle a pardonné. C'est le Seigneur qui l'a fortifié pour pardonner. Et lorsqu'on ne pardonne pas, c'est la colère, l'amertume, la haine qui s'empare de nos cœurs et empoisonne nos vies. Et je suis convaincu que si les couples se pardonnaient régulièrement, il y aurait moins de divorces. Si on reconnaissait nos propres torts en demandant pardon, et si on est prêt à pardonner à l'autre, c'est là que nous pouvons vivre en paix. Mais ça, c'est aussi, il faut réaliser que pardonner et demander pardon, c'est au fond unilatéral. Ça ne dépend pas de la réponse de l'autre personne. Vous pouvez pardonner et demander pardon, peu importe leur réponse. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Donc, devant le Seigneur, vous avez, c'est important de pardonner, peu importe la réponse de l'autrui. Et même le Seigneur a souligné aussi ça dans son sermon sur la montagne. En Matthieu 5, versets 23 et 24, il dit, « Si tu présentes ton offrande, vers l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » On pense à un niveau d'une offrande, parce que ça c'était la réalité dont, lorsqu'il parlait aux Juifs de parler, mais c'était dans le culte ils faisaient leur offrande, mais c'était quelque chose qu'ils faisaient individuellement de leur propre cœur, devant le Seigneur. Et dans notre vie aujourd'hui, nous ne nous offrons pas les offrandes de cette façon-là. Oui, on fait des offrandes comme on a fait le matin, mais c'est plutôt quelque chose qu'on fait devant le Seigneur. C'est nos vies de prière même qui entrent en vigueur ici. Si vous êtes là, dans la prière, et là vous vous souvenez de quelque chose, que votre frère a quelque chose contre vous, au fond, le Seigneur dit, cessez de prier. Va d'abord, vous réconciliez votre frère, avec votre frère, et ensuite venez à moi. S'il y a un problème non réglé dans vos vies, en ce moment-ci, ne tentez pas de prier. Le Seigneur dit, allez d'abord vous réconcilier avec cette personne. C'est si important aux yeux de Dieu. Il ne veut pas écouter nos prières. Et si nous ne pardonnons pas à l'autre, on ne va pas expérimenter le pardon de Dieu dans notre vie. Oui, le pardon est présent en Jésus. Et comme ses enfants, nous sommes pardonnés. Mais nous ne pouvons pas vivre ce pardon. Nous ne pouvons pas vivre en paix dans notre communion avec Dieu lorsqu'il y a un problème non réglé dans notre propre vie. Donc, si on veut vivre en paix, il faut vivre en paix avec les autres. Mais, comme je vous ai dit, pardonner et demander pardon, c'est unilatéral, mais être réconcilié avec quelqu'un qui prend plus d'efforts, ça dépend de la réponse de l'autrui. Dieu demande que vous faites votre possible. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il y a une partie de la réconciliation qui ne dépend pas de vous. Ça demande la réponse de l'autre personne. Si l'autre personne ne vous pardonne pas, ou ne demandez pas pardon de vous, il n'y aura pas de réconciliation. Mais si vous avez demandé pardon, et si vous avez pardonné, vous avez fait ce que le Seigneur vous a demandé, tentez de faire la réconciliation, c'est ça que le Seigneur vous demande. Être réconcilié, ça dépend des deux côtés. Ça dépend de la réponse de l'autre personne pour vous être réconcilié. Mais pour vivre la paix dont vous promettez, il faut tout simplement demander pardon et pardonner. Un quatrième domaine, vivre en paix dans les épreuves. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste les problèmes dans nos relations personnelles qui peuvent perturber notre vie, la paix dans notre vie. C'est aussi les problèmes, les épreuves. Chaque fois qu'une épreuve arrive, souvent nous sommes anxieux. Il y a des problèmes. Les pertes d'un emploi, un accident d'auto ou de sport, la maladie, un manque d'argent, la mort d'un proche, la pression ou le défi au travail, les soucis de la famille. Et nous avons une tendance que chaque fois que quelque chose comme ça arrive dans nos propres vies, nous avons une tendance de penser que Dieu est en train de me punir pour quelque chose de mauvais que j'ai fait. Et si ça c'est votre pensée, il faut éliminer ça complètement de votre tête. Parce que je peux vous garantir 100% qu'il n'y a aucune épreuve qui arrive dans votre vie comme croyant, qui est une punition de Dieu. Parce que Jésus a subi sur la croix toute la punition pour vos péchés. Donc, les épreuves, les difficultés dans vos vies ne sont pas du tout une punition qui vient de Dieu. Mais il y a des conséquences de nos péchés dans nos vies. Il y a des difficultés qui arrivent parfois dans nos vies. Ce n'est pas la source de toutes nos épreuves, c'est certain. Parfois, les épreuves qui viennent dans nos vies viennent du fait qu'on a commis un péché. Et c'est facile d'illustrer ça. Je ne parle pas nécessairement de c'est un péché, mais si on ne respecte pas les lois de la route, si on décide de passer les stops, les arrêts, sans arrêter, au fur et à mesure, vous pouvez subir un accident. Parce que vous avez décidé, il y a des conséquences naturelles de briser les lois ou de pécher. Ou si vous n'êtes pas assidu dans vos tâches, à votre travail, vous pouvez être renvoyé parce que vous ne vous faisiez pas le travail que vous étiez expecté, qui a été expecté de vous. Donc, il y a des conséquences naturelles lorsque nous péchons. Mais ça, ce n'est pas une punition. Dieu utilise ces choses-là pour nous corriger. Il utilise les épreuves dans nos vies qui viennent de nos propres péchés pour nous corriger, pour nous discipliner. Et la discipline, la différence entre la punition, c'est juste établir la justice. La discipline est corrective. Elle vise une amélioration de notre propre comportement. Mais il faut réaliser que les épreuves qui viennent dans nos vies, juste un certain pourcentage vient de nos propres péchés. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui viennent complètement d'autres choses et qui n'ont aucun lien avec quelque chose que vous avez fait, un péché. Il n'y a aucun lien direct. Et là, il faut réaliser que ce sont les promesses robustes de Dieu qui entrent en vigueur. Et on va juste regarder juste deux. Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset m'enseigne au moins trois choses. D'abord, lorsque je fais face à une épreuve, lorsque je me commence à m'inquiéter de quelque chose, ma réponse doit être tout de suite d'entrer dans la prière et faire connaître mes besoins au Seigneur. Le Seigneur connaît déjà les besoins, mais moi, je dois les faire connaître à lui. La prière est pour moi et non pas pour Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez ça. La prière, Dieu n'a pas besoin de vos prières. Vous avez besoin de vos prières. La prière est pour vous et non pas pour Dieu. Dieu connaît déjà ce que vous allez dire. Il a connu ça même avant de vous créer, même avant la création du monde. Il connaît toutes les prières de tous les êtres humains, de toute l'éternité. Il le connaît déjà. Donc, il n'a pas besoin de vos prières pour répondre à vos besoins. Mais vous en avez besoin de vos propres prières. C'est pour vous. Vous priez à Dieu, mais la prière, c'est pour vous, dans votre relation avec Dieu. Et c'est lorsque nous prions que là, il promet de verser sa paix dans nos cœurs. Deuxième chose que ça m'enseigne, c'est que face à une difficulté, une épreuve, je dois remercier le Seigneur. Pas nécessairement pour l'épreuve en tant que telle, mais pour comment il va utiliser dans ma vie. Et en priant et remerciant, la troisième chose que ce verset me promet, c'est qu'il va verser sa paix dans mon cœur. Une autre promesse, Romains 8, oups, c'est ça que j'avais avancé trop vite. Romains 8, 28 à 29, c'est une promesse qui m'aide énormément de vivre la paix dans mes difficultés. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Ce passage m'enseigne aussi trois choses. D'abord, en tout temps, en toutes circonstances, Dieu est au contrôle. Et promet d'utiliser chaque élément, chaque chose qui rentre dans ma vie, incluant toutes les difficultés, même les péchés d'autrui, même mes propres péchés, Dieu utilise tout qui rentre dans ma vie pour mon bien. Ce n'est pas que le péché est bon, c'est pourquoi je ne remercie pas le Seigneur pour le péché dans ma propre vie. Mais il est capable d'utiliser le péché pour tourner ça en notre bien. Et surtout, même les péchés des autres. Il y a plusieurs exemples dans les Écritures de comment Dieu a utilisé un péché dans la vie des autres pour faire le bien. L'histoire de Joseph, le péché de ses frères de le haïr, de le vendre comme esclave, la façon que qu'il a été maltraité par la femme du le gars qu'il a acheté, qu'il a mis en prison au fur et à mesure, le fait qu'il était en prison pour des années, Dieu a utilisé tous ses péchés pour non seulement mettre Joseph dans une position où il pouvait sauver son peuple. Il y avait des centaines de péchés qui ont été commis contre Joseph que le Seigneur a utilisé pour son bien. Donc, Dieu a un plan. Il n'y a rien qui entre dans ma vie qui ne contribue pas à son plan. Chaque chose qui entre dans votre vie. Et quel est ce plan? Dieu le dit clairement dans ça. Son plan pour ma vie, c'est qu'il me rende semblable à son Fils. C'est ça, au fond, votre but ultime. Les raisons pour lesquelles vous existez, votre raison d'être, c'est de devenir ressemblant à Jésus, pour que chacun de nous reflète Jésus l'un à l'autre pour le reste de l'éternité. On a une des chansons qu'on a parlé, on a chanté tout à l'heure par rapport à d'être dans la présence de Dieu sans péché. C'est difficile à imaginer ça parce que nous vivons dans un monde de péché et nous commettons des péchés jour après jour. C'est difficile à même imaginer un monde sans péché. Mais dans sa présence, nous serons complètement semblables à Jésus dans son caractère. On va exprimer tout le fruit de l'Esprit parfaitement. L'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, l'humilité. On va manifester tout cela parfaitement l'un et l'autre dans sa présence au ciel. Dans son plan ultime pour chacun de nous et le plan pour lequel il utilise chacune des épreuves dans votre vie, c'est pour vous faire de plus en plus semblable à son Fils Jésus. Donc Dieu promet, la troisième chose au fond, c'est une promesse que Dieu utilise chaque chose, peu importe même votre réponse à ces choses. Parfois, notre réponse en épreuve va déterminer un peu ce qui arrive à l'avenir par rapport au plan de Dieu. Mais son plan, c'est sûr et certain, si vous êtes un enfant de Dieu, 100% certain, un jour, vous serez ressemblant à Jésus à 100%. Son plan ne sera pas annulé. Il n'y a aucune chose qui peut annuler son plan pour votre vie. C'est sûr et certain qu'un jour, vous allez ressembler à Jésus. La plupart de vous savez qu'en 2014, je faisais partie d'une équipe de 4 cyclistes qui ont fait la traverse transcanadienne en vélo. Puis, donc, c'était un projet de 5 ans, 4 jours, mais je vous ai déjà parlé. Au moins, il y a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas un peu cette histoire, mais le 17 juillet 2014, j'ai eu un accident grave qui m'a empêché de rouler avec l'équipe au moins 17 jours. Mais c'était mon rêve qui a inspiré le projet. Les 3 autres cyclistes se sont ajoutés à moi. Ce n'était pas leur rêve, c'était mon rêve. Et le fait que j'ai eu cet accident, mon rêve a été déchu. Et je vivais un fort chagrin, le fait que j'avais perdu mon rêve. Puis, j'ai commencé à prier cependant. Je savais que le Seigneur voulait utiliser ça dans ma vie. J'ignorais le pourquoi. Mais, comme j'ai déjà partagé à un moment donné, il a utilisé la compassion des autres, d'abord pour m'apporter le secours et le réconfort, à différentes façons. Autant que j'ai décidé de commencer à parler lorsque c'était à nous d'encourager les autres à donner, j'ai utilisé ça comme exemple, le fait que le Seigneur a exprimé la compassion envers moi au travers les autres qui, pour la plupart du temps, ne me connaissaient pas du tout. Ils étaient des étrangers. Le Seigneur a utilisé les étrangers pour manifester sa compassion. J'ai encouragé les gens à donner aux personnes dans d'autres pays qui ne connaissaient rien parce qu'on faisait ce voyage pour le forage des puits en Afrique et aussi pour l'implantation des églises. Il y avait 33 puits qui ont été forés depuis ce temps-là et 11 églises implantées. Ça, c'est par rapport au projet en 2014. Donc, les gens, lorsqu'ils donnaient, exprimer la compassion de Dieu aux autres. Donc, le Seigneur a utilisé mon propre exemple pour encourager les autres. Mais il y avait une autre chose. À un moment donné, j'ai entendu, le dimanche suivant mon retour à l'équipe, de continuer à faire le vélo avec l'équipe. Donc, je ne m'en souviens plus exactement la journée de la semaine que j'avais commencé. C'était un lundi. Donc, 6 jours plus tard, lorsqu'on était à Fredericton, j'ai entendu un message qui était par rapport, qui parlait de l'importance de lâcher prise. Et le Seigneur m'a dit, Robert, lâcher prise veut dire de me laisser faire ce que je veux faire et non pas me dire quoi faire. Et j'étais en train de dire au Seigneur, mais je ne voulais pas que ça m'arrive. J'avais mes propres idées. Donc, lâcher prise voulait dire vraiment donner carte blanche au Seigneur. Cette journée-là, j'ai confessé mon péché de ne pas avoir vraiment lâché prise de mon rêve. Et le moment même que j'ai confessé ça, j'ai commencé à expérimenter une paix que je ne pouvais pas expliquer. Parce que les circonstances n'ont pas changé. J'avais encore la douleur de l'accident. Le rêve était encore brisé, mais j'expérimentais son paix. Parce que je l'avais donné vraiment, cédé entre ses mains. Donc, pour expérimenter la paix dans nos épreuves, dans les difficultés, il faut tourner vers ses promesses pour savoir comment le Seigneur peut nous... Pourquoi il utilise ces choses dans nos vies. Mais comment il utilise ces choses dans nos vies et pourquoi. Plusieurs ont d'habitude de se donner des résolutions pour le nouvel an. Et je vous donne une suggestion. Une de vos résolutions, ça peut être de vivre en paix. Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, repentez-vous. Demandez pardon et laissez Jésus entrer dans votre vie et faire de toi la personne qu'il désire que vous soyez. Et vous allez devenir ses enfants et vous ne serez plus ses ennemis. Vous serez en paix avec Dieu pour l'éternité. Si vous n'êtes pas en paix avec soi-même, avec vous-même, examinez ce que Dieu dit de votre égard et reconnaissez votre valeur à ses yeux. Si vous n'êtes pas en paix avec les autres, demandez pardon et pardonnez. Et si vous n'êtes pas en paix dans une épreuve, remettez l'épreuve entre les mains de Dieu par la prière. Remerciez-le pour l'épreuve, ben pas pour l'épreuve en tant que telle, mais comment il va utiliser l'épreuve dans votre vie pour vous rendre plus semblable à Jésus. Donc, c'est à vous de diagnostiquer votre propre vie. J'ignorais ce qui se passe dans votre vie, mais le Seigneur sait. Il est auprès de vous. Donc, juste demande-lui, si vous ne savez pas ce qui est en train de perturber votre paix, demandez-lui, il va vous donner les indices. Mais probablement, vous le savez. C'est à vous d'utiliser le propre remède pour votre propre situation. Prions. Père éternel, comme Jésus nous a enseigné la journée avant sa mort, c'est vous, c'est lui qui nous donne la paix. Merci Seigneur, parce que c'est une paix que ton esprit produit dans notre propre cœur, qui au fond ne dépend pas des circonstances, les autres personnes, mais ça dépend de notre réponse. Ça dépend de toi et comment tu veux l'utiliser dans nos propres vies. Seigneur, amène la paix dans la vie de mes frères et sœurs. Pas parce que la paix est une fin en soi, mais c'est parce que tu le promets et tu veux le verser dans nos cœurs et tu veux le produire en nous pour qu'on puisse être de plus en plus semblable à notre Seigneur Jésus. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.